Le débat du jour. Loïc Bussière.
C'est une problématique longtemps négligée derrière l'image d'un terrorisme hypermasculinisé tel que véhiculé par Daesh, celle de ces femmes parties grossir les rangs de l'organisation État islamique, des suiveuses, des épouses, pieuses, soumises et surtout inoffensives, de moins le pensait-on, encore récemment jusqu'à ce mois de septembre 2016 et l'arrestation de 5 jeunes femmes dans l'affaire de l'attentat raté de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, les acteurs de l'antiterrorisme concèdent eux-mêmes avoir peut-être sous-estimé le degré de radicalité de celles qui jouent un rôle actif dans la propagande et le recrutement notamment. Et l'image de la femme djihadiste de céder sa place à celle de la femme djihadiste plus dangereuse que leurs homologues masculins, s'interrogent certains. C'est la question que l'on se pose ce mercredi avec nos invités Edith Bouvier et Marie Dosé. Bonsoir Edith Bouvier.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et co-auteur d'un parfum de djihad paru récemment aux éditions Plon, livre que vous écrivez avec Céline Martelet. Bonsoir Marie Dosé.
Bonsoir.
En ligne avec nous, vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous avez notamment en charge plusieurs cas de femmes détenues au Kurdistan irakien. Merci à vous deux d'avoir répondu à l'invitation d'RFI. Ce phénomène des femmes djihadistes que j'évoquais en préambule, il a longtemps été relégué au second plan. Et quelle est sa réalité chiffrée, Edith Bouvier ?
Alors juste un chiffre, aujourd'hui elles sont 298 femmes présentes sur la zone irako-syrienne et à peu près sur 670 individus. C'est le plus gros contingent de femmes parties rejoindre une organisation terroriste.
Et ce sont autant de profils différents ?
Quand on a commencé à écrire ce livre avec Céline Martelet, on s'est posé la question des profils. Et en fait, on n'arrivait pas à s'arrêter de travailler parce qu'à chaque fois, on avait de nouvelles histoires, de nouveaux profils. Des familles de toutes les régions de France, des familles de la bourgeoisie ou pas, des familles en difficulté ou pas, des papas présents, trop présents, absents, des mamans souvent trop présentes. La seule chose qu'on a trouvée dénominateur commun chez toutes ces filles, c'est une faille. C'est une fragilité, c'est pour beaucoup des femmes qui ont été violées ou abusées, des femmes qui ont subi quelque chose comme ça de violent par souvent un membre de la famille. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les femmes violées vont rejoindre une organisation terroriste. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui la France a créé ce besoin, ce désir qu'ont ces gens-là ?
Marie Dosé, je me tourne vers vous. Est-ce que vous constatez également cette même diversité de profils dans les cas que vous avez à traiter ?
Non, mais moi j'assiste des femmes qui sont actuellement prisonnières au Kurdistan syrien. Donc ce n'est pas par téléphone ou par WhatsApp et de façon très anecdotique que je peux me faire une idée de leur profil et de leur personnalité. Donc je vous entendais tout à l'heure, il ne faut pas figer les images. Edith Bouvier a raison, il y a autant d'histoires que de profils et autant de personnalités que d'histoires. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ces femmes, elles sont l'addition de beaucoup de failles, de beaucoup de fragilités, de beaucoup de forces. Certaines sont vraiment radicalisées, d'autres sont plus victimes de ce qu'elles ont cru pouvoir à un moment donné imaginer. Enfin, voilà. Ce que je sais, moi, c'est que je ne sais rien d'elles. Et ce que je sais pour l'instant, c'est que justement parce que je ne sais rien d'elles, il est important qu'elles soient judiciarisées en France. Là, pour l'instant, elles sont entre les mains des Kurdes, qui n'en peuvent plus, tout simplement parce que c'est pas leur priorité de les garder entre leurs mains et qui demandent à la France de s'en occuper. La France le refuse et je pense qu'elle est non seulement irresponsable, mais qu'elle met les citoyens en danger en s'aveuglant de la sorte.
Edith Bouvier, la judiciarisation justement des cas de femmes djihadistes, c'est un phénomène assez récent.
Alors jusqu'à effectivement, vous le disiez, l'attentat des bonbonnes à peu près, les femmes qui rentraient chez elles. En fait, malgré ce qu'elles avaient vécu en Syrie, elles étaient parfois un peu entendues par les policiers, mais un mois, trois mois après qu'elles soient rentrées, et un rendez-vous un peu, pour savoir comment ça s'est passé et récupérer un peu d'infos, mais jamais elle n'était mise en cause et du coup jamais elle n'était accompagnée et jamais on ne s'intéressait au traumatisme de ce qu'elles ont vécu là-bas, la guerre quand même, c'est pas rien, les bombardements et aux raisons qui ont fait qu'elles ont pu rejoindre ce type d'idéologie, ce type d'organisation. Et depuis 2016, effectivement, toutes les femmes qui rentrent, donc aujourd'hui on en est à 72, sont judiciarisées. Je crois qu'on en est à peu près 6 qui ont été jugées pour le moment, 16 qui sont mises en examen ou en attente de jugement. Et là-dessus, il y en a certaines sont en détention provisoire, certaines sont laissées libres sous contrôle judiciaire, mais la justice apprend, j'ai l'impression, un petit peu à chaque retour à gérer cette nouvelle population parce qu'on n'a jamais vu ça, parce qu'on n'a jamais eu à traiter ces cas-là jusque-là.
Marie Dosé, la façon justement de traiter ces cas de femmes djihadistes, elle est forcément empirique ?
Non, ce qu'il faut surtout, c'est que la justice antiterroriste parvienne à laisser une place importante à la personnalité de chacun. C'est-à-dire que là, on va voir effectivement arriver des traumatismes, des violences aussi, des gens sur lesquels il va falloir travailler psychologiquement, mesurer le degré de dangerosité ou mesurer le degré de traumatisme, et qu'il ne va pas falloir oublier, dans le cadre d'informations judiciaires qui mettent trop souvent de côté la personnalité, tout le volet psychologique. Parce que, à un moment donné, ces femmes vont devoir être réinsérées dans la société, elles vont devoir réapprendre les règles de la République, mais avant tout, il va falloir prendre en charge, effectivement, leur personnalité et donc mieux la cerner. Nous, on regrette souvent, les avocats, que dans le cadre des informations judiciaires antiterroristes, la personnalité manque. Les magistrats ne vont pas trop loin dans toutes ces études, dans les expertises médico-psychologiques et psychiatriques, et font fi un peu du profil, justement. Alors que là, véritablement, pour ces femmes, il va falloir se poser les vraies questions et se donner les moyens d'y répondre.
Et vous, une réaction ?
Et je suis d'accord avec ce que dit Marie Dosé. Justement, sur les hommes, petit à petit, on met en place des dispositifs, des analyses. Il y a tout ce qu'on dit, les quartiers d'évaluation dédiés, tous ces dispositifs qui sont mis en place pour les accompagner, pour les interroger, pour essayer de comprendre qui sont ces individus. Bon, ça fonctionne pas très bien, mais pour les femmes, rien n'est mis en place. On les laisse en prison, et à aucun moment on ne se pose la question de ce qui a bien pu faire qu'elles aient choisi ce chemin-là.
Qu'est-ce qui justifie justement, à votre sens, et je m'adresse à vous également, Marie Dosé, cette différence de traitement ? Est-ce que c'est l'intérêt relativement récent justement de cette problématique, ou l'ignorance tout court ?
Non, mais d'abord, toutes les femmes parties là-bas ne sont pas parties là-bas pour combattre, contrairement à la majorité des hommes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ont cherché là-bas une forme de pureté qu'elles ne trouvaient pas dans les cités. Elles sont allées suivre un rêve qu'on leur avait inculqué via Internet. Très franchement, les femmes qui sont actuellement dans les camps au Kurdistan syrien, à 90%, n'ont jamais combattu. Donc ce sont d'autres profils aussi et d'autres desseins lorsqu'elles partent que le dessin de ceux qu'elles ont rejoints. C'est complètement différent. Donc la différence de traitement au départ est là. Tout le monde a pensé que ces femmes étaient finalement abusées, souvent via Internet, et allaient rejoindre le bien-aimé dans une espèce de rêve de pureté qu'elles ne pouvaient plus trouver dans la cité. Mais en réalité, elles ne correspondent pas toutes à ce profil-là. Donc voilà, petit à petit, l'histoire, elle se fait, puisqu'on est en train finalement de la vivre à l'instant T. Il n'y a pas eu ce précédent-là depuis des décennies, et c'est difficile de comparer ce qui nous arrive dans l'histoire contemporaine à d'autres faits historiques. Donc, mais cette improvisation, il ne faut pas qu'elle se transforme en amateurisme. Et moi, ce que je regrette, je le répète, c'est que ces femmes, pour l'instant, au Kurdistan syrien, la France répète qu'elle n'en veut pas. Ce qui est complètement irresponsable. Complètement irresponsable.
Et ce qui créera les prochains djihadistes de demain si jamais on ne sait pas gérer ces gens-là. C'est ce qui fait aujourd'hui le beurre des vidéos et des chaînes de propagande, c'est qu'on utilise ça. Ils ont même plus besoin d'utiliser les vidéos avec des Syriens en train de mourir dans la Ghouta ou à Idlib. Ils ont juste à regarder ce que fait le gouvernement français là-bas. Comment on abandonne des dizaines de Français à leur sort? C'est ça qui est terrible, c'est que cette tête dans un trou qu'ont choisi les autorités françaises de mettre aujourd'hui, c'est ça qui va être le déclencheur du problème suivant.
Je tiens quand même à signaler que plusieurs de mes clientes qui sont actuellement dans un camp au Kurdistan syrien m'informent depuis 2 semaines que les Kurdes leur répètent qu'elles vont les remettre, elles et leurs enfants, je parle d'enfants de nourrissons, je parle 10 mois, 1 an, 2 ans, à l'État islamique ou ce qu'il en reste. Enfin, on marche sur la tête, alors même que d'autres pays, notamment d'autres pays européens, ont trouvé les possibilités pour organiser des rapatriements. La France est la seule à se voiler la face à ce point, ce qui est parfaitement incompréhensible et irresponsable.
Édith Bouvier.
Alors, complètement. Et le souci, c'est que ce que je n'arrive pas à comprendre, pour revenir sur ce qu'on disait aussi, c'est que on est dans une société où on passe notre temps à avoir des velléités féministes, et pourtant on reste une société macho, avec une justice macho, sexiste, et du coup on considère encore ces femmes comme des pauvres abrutis qui n'auraient pas été capables de prendre une décision. On continue de dire que si elles sont parties, c'est parce qu'elles suivaient un homme, c'est parce qu'elles n'avaient pas de cerveau pour faire des choix. Elles ont fait un choix, il faut le reconnaître.
Non, précisément, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, dans la majorité des cas, les femmes qui sont en Syrie ou en Irak, c'est le fruit d'un choix mûrement réfléchi et parfaitement assumé.
Que ça soit une bêtise au final, qu'elles le regrettent, qu'elles aient réalisé que ce rêve, cet idéal n'était pas le bon, en tout cas pas au bon endroit, que c'était pas la bonne organisation qu'elles avaient rejoint. Ça, c'est clair. C'est le cas de beaucoup. Mais en tout cas, qu'elles aient eu le choix. Et effectivement, c'est ce que Marie Dosé disait tout à l'heure. Elles ont beaucoup de failles, beaucoup de fragilités, mais elles ont aussi beaucoup de force. Il en faut pour des gamines, parfois même beaucoup mineures, de prendre l'avion, de se cacher de ses parents, de dire « je vais chez ma copine machin, je vais au lycée », de prendre le bus jusqu'à l'aéroport, de monter dans un avion, direction la Turquie et l'inconnu. Pour des jeunes filles qui n'ont jamais quitté le giron familial.
Je voudrais revenir justement, Édith Bouvier, sur le rôle de ces jeunes filles qui se rendent donc en Irak et en Syrie. Je parlais tout à l'heure de femmes de djihadistes et de femmes djihadistes. Au-delà de la formule, comment est-ce qu'on passe d'un statut à l'autre, et est-ce que le second statut implique forcément un rôle beaucoup plus actif dans l'organisation de l'État islamique ?
Alors, je suis pas d'accord avec les deux statuts. On arrive enfin au débat. Je suis pas d'accord avec les deux statuts parce que d'abord, femme 2, ça me pose toujours problème de base. Et ensuite, elles ne sont pour le moment pas djihadistes. C'est-à-dire que certaines...
C'est-à-dire qu'elles sont pas combattantes.
Elles sont combattantes, mais en termes défensifs. Il y a une vidéo qui est sortie en septembre 2017 qui les autorisait, qui les exhortait même à combattre, mais de façon défensive. C'est-à-dire si le groupe est attaqué, s'il y a besoin, si elles sont encerclées, de se défendre pour ne pas mourir, elles mourront les armes à la main. Ça oui, mais sinon, elles ne sont pas djihadistes, elles ne sont pas parties comme les hommes pour combattre effectivement. Elles sont très fières de poser avec leur kalach, elles sont très fières quand leur mari leur offre comme dot une arme parce que ça fait bien, mais sinon pour le moment, elles ne sont pas dans le profil des hommes.
Quel rôle, justement, est-ce qu'elles embrassent au sein de cette organisation ?
Elles ne sont pas combattantes, mais elles ont un vrai rôle, effectivement. Et pour moi, c'est la différence entre les autres organisations terroristes et l'État islamique, c'est que c'est un proto-État qui se déclare État. Et du coup, il faut des femmes pour faire ses enfants. Il faut des femmes pour avoir ses lionceaux, ce qu'ils appellent partout, sur toutes les vidéos. Et surtout, il faut ces femmes pour... via ses enfants, propager l'idéologie et faire que cet État continue à exister. Et qu'aujourd'hui, elles élèvent le second rideau parce que les troupes sont quand même bien décimées.
Élever les enfants, propagande...
Et recrutement.
Et recrutement beaucoup. Également. Marie Dosé, vous vouliez réagir, je vous entends.
Non, je réagissais. Enfin, je vous écoute attentivement, mais... tout ça, c'est l'association malfaiteur, en fait. D'accord? L'association malfaiteur qui est une infraction fourre-tout. Parfois, les avocats de la défense l'appellent l'infraction poubelle, et à juste titre. On sait ce que ça a donné dans Tarnac. Mais oui, une femme qui part uniquement pour avoir des enfants avec un combattant, c'est déjà un maillon de l'association malfaiteur, et ça permet effectivement de la poursuivre en France. C'est important de savoir que cette infraction, pour ces femmes-là, n'existe pas au Kurdistan syrien. Donc la France nous a expliqué et continue de nous expliquer qu'elles peuvent être jugées par les autorités locales kurdes, qui en soi n'ont aucune existence puisqu'il n'y a pas d'institution souveraine au Kurdistan syrien, mais de surcroît l'association malfaiteur n'existe pas. Ce que je veux juste dire, c'est que moi je ne les connais pas. Édith Bouvier les a peut-être rencontré plus que moi, elle a rencontré des familles. Moi, je défends des gens que je ne connais pas. Et c'est pas de la mauvaise foi d'avocat que de vous dire que je ne sais pas qui je défends. Je ne sais pas si elles sont dangereuses, elles le sont peut-être. Je ne sais pas si elles ne le sont plus, je ne sais pas si elles sont des victimes de guerre, mais non pas dans les faits, mais psychologiquement, si elles regrettent, si elles ne regrettent pas. Ce que je sais, c'est que si on va jusqu'au bout de cette absence totale de politique française à leur égard et à leur endroit actuellement, les Kurdes vont leur ouvrir les portes de ce camp, et puis un jour, on les retrouvera peut-être, place de la République, effectivement à la tête d'un nouvel attentat. Et on ne pourra pas nous dire on ne savait pas. Parce que là, véritablement, les abandonner aujourd'hui entre les mains des Kurdes qui n'en veulent pas, alors même qu'on peut les judiciariser en France, je le répète, ça n'a plus aucun sens. Donc moi, je ne peux pas parler d'elles, et je pense que la France ne peut pas parler d'elles tant qu'elle ne les a pas rencontrées, finalement. Ces femmes qui sont parties, elles étaient dans les cités, on ne les connaissait pas avant qu'elles partent. Aujourd'hui, c'est compliqué de dresser des portraits sur des femmes restées là-bas qui ne sont pas judiciarisées ici. En tout cas, je parle de celles qui sont soit en Irak, soit au Kurdistan syrien. C'est pas au Kurdistan syrien qu'on va faire des expertises médico-psychologiques, des expertises psychiatriques ou des enquêtes de personnalité. Donc ce qu'il faut, c'est connaître notre histoire et connaître ce qu'on a créé. Car c'est bien la République française qui a créé ces profils. Elles sont nées en France, elles sont françaises, elles sont nées dans les cités, elles ont été élevées à l'école de la République. C'est notre échec, c'est notre histoire, j'ai l'habitude de le dire, mais je ne suis pas entendue, donc je me répète.
Édith Bouvier, je vous voyais hocher la tête quand Marie Dosé parle de personnes qui viennent de cités. Je crois que vous n'êtes pas à 100% d'accord.
Heureusement, elles ne viennent pas que de cités, sinon ça serait trop facile de se dire c'est un profil type, c'est toutes les jeunes filles de cités, de quartiers.
Justement, il n'y a pas de profil type.
Défavorisées, de familles bancales, et du coup, c'est la faute des familles, c'est la faute du quartier. C'est bien plus vaste. Et le problème, c'est que si on ne les fait pas venir en France, si on n'est pas capable de gérer, je ne comprends pas pourquoi les Kurdes en Syrie, ils ont déjà suffisamment taf à reconstruire leur pays, pourquoi ils se taperaient nos jeunes filles et nos problèmes qu'on n'a pas été capable de regarder en face. Par respect pour les familles de victimes ici des attentats en France, il faut regarder le problème en face, savoir qu'est-ce qui a créé ce contingent-là, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ça, qu'est-ce qui a fait que quand il y a eu l'Afghanistan ou les premiers départs en Irak, il y avait une femme. Pourquoi aujourd'hui, c'était Muriel de Kock en 2005, pourquoi aujourd'hui il y en a 276 présentes aujourd'hui? Si on ne se pose pas la question de comprendre, le prochain, ça sera la Libye. Là, il y a des départs en Afghanistan. Il y a une femme qui a été arrêtée en Afghanistan. On n'arrêtera pas. Ce n'est pas l'État islamique. Il y aura un autre groupe avec un autre fou qui créera son idéologie. Et on n'arrangera pas la solution.
Édith Bouvier, je parlais de dangerosité tout à l'heure et un peu naïvement de comparaison entre la dangerosité des djihadistes hommes et femmes. Est-ce que le danger justement de cette problématique des femmes djihadistes, il est précisément dans l'absence de traitement qu'on lui oppose ?
C'est depuis qu'on a posé la question de en octobre 2017, les jeunes filles dans les camps, leurs familles, ont écrit aux autorités françaises. Elles sont restées sans réponse. Depuis, le président français s'est penché sur la question. Tous les ministres, tous les porte-parole du gouvernement se sont penchés, ont émis leurs réponses. Elles diffèrent toutes. Chaque semaine, on a un nouveau son de cloche, une nouvelle façon de gérer ces jeunes filles. À un moment qu'on prenne une décision, effectivement, il n'y a pas d'association de malfaiteurs au Kurdistan syrien, à part pour les personnes qui ont commis un attentat, et on gère le problème en France.
Marie Dosé, rapidement, je vous laisse conclure.
Non, mais de toute façon, il n'y a pas de justice kurde. Le Kurdistan syrien, ça n'existe pas, il n'y a pas d'institution souveraine. Donc on préfère les laisser entre les mains de l'arbitraire, au lieu d'assurer notre sécurité en les judiciarisant ici. C'est tout simplement du n'importe quoi.
Merci, ça sera le mot de la fin. Marie Dosé, je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Merci, Édith Bouvier, d'avoir répondu à l'invitation des RFI. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Céline Martelet d'Un parfum de djihad. C'est paru aux éditions Plomb. Merci également à Valentin Vaner, à la réalisation, à Arthur Tossou pour son aide dans la préparation de ce débat. Le débat du jour qui revient demain à la même heure. On parlera de la violence comme arme politique. Tout de suite, le retour de l'actualité internationale sur RFI.